L'histoire cachée du verset 40, nombre 24. Ézéchiel numéro 5.
Dans le passage de Testimonies, volume 5, que nous examinons depuis quelques articles déjà, nous sommes instruits au sujet de la vision du temple donnée à Ézéchiel, Ésaïe et Jean.
Ces leçons sont pour notre profit. Nous devons appuyer notre foi sur Dieu, car il est juste devant nous un temps qui mettra à l'épreuve l'âme des hommes. Christ, sur le mont des Oliviers, rappela les jugements redoutables qui devaient précéder son second avènement. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Si ces prophéties reçurent un accomplissement partiel lors de la destruction de Jérusalem, elles s'appliquent plus directement au dernier jour.
Le 9 Av.
Tisha B'Av, qui signifie en hébreu le 9e jour d'Av, est le jour juif qui commémore la destruction du premier temple par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, ainsi que celle du second temple par Titus en l'an 70. Ces deux destructions eurent lieu à la même date du calendrier, le 9e jour du mois hébreu d'Av, qui tombe généralement en juillet ou en août du calendrier grégorien. Lorsque Sir White met en parallèle la destruction de Jérusalem et le temps qui éprouvera les âmes des hommes dans les derniers jours, elle identifie deux destructions qui illustrent toutes deux la loi dominicale imminente. Le verset 16 de Daniel 11 représente cette loi du dimanche et correspond au verset 41. Dans Ézéchiel, la destruction de Jérusalem est employée pour illustrer la séparation des vierges sages et des vierges folles lors de la loi du dimanche. Ézéchiel était captif à Babylone lorsqu'il fut miraculeusement transporté à Jérusalem afin de contempler cette même séparation, au chapitre 8 à 11.
Et il arriva, la sixième année, au sixième mois, le cinquième jour du mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, que là la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Alors je regardais, et voici, une ressemblance ayant l'apparence du feu. Depuis l'aspect de ses reins jusqu'en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins jusqu'en haut, c'était comme l'apparence d'une splendeur, comme la couleur de l'ambre. Et il étendit une forme de main, et me prit par une boucle de mes cheveux, et l'Esprit m'éleva entre la terre et le ciel, et me transporta dans les visions de Dieu, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure qui regarde vers le nord. Là était le siège de l'image de la jalousie qui provoque à la jalousie. Ézéchiel 8, 1, 3.
Les quatre chapitres, du 8e au 11e, constituent une description de la séparation, et Sir White, en commentant Ézéchiel 9, identifie non seulement qu'il s'agissait du même scellement que dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, mais aussi que Jérusalem représente l'église adventiste du 7e jour de Laodicée dans les derniers jours.
Ceux qui ne s'affligent pas de leur propre déchéance spirituelle et ne pleurent pas sur les péchés d'autrui seront laissés sans le sceau de Dieu. Le Seigneur donne cet ordre à ses messagers, les hommes ayant en main des armes de destruction, passez après lui par la ville et frappez, que votre œil soit sans égard et n'ayez point de pitié. Tuez, faites périr les vieillards, les jeunes gens, les vierges, les petits-enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque portera la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. Ici, nous voyons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, fut la première à sentir le coup de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui Dieu avait donné une grande lumière et qui s'étaient tenus comme gardiens des intérêts spirituels du peuple, avaient trahi leur mandat. Ils avaient adopté la position selon laquelle nous n'avons pas à nous attendre à des miracles ni à la manifestation marquée de la puissance de Dieu comme au jour ancien. Les temps ont changé. Ces paroles fortifient leur incrédulité et ils disent « Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour visiter son peuple par le jugement. » Ainsi, paix et sécurité, tel est le cri de ces hommes qui ne hausseront plus jamais la voix comme une trompette pour montrer au peuple de Dieu ses transgressions et à la maison de Jacob ses péchés. Ces chiens muets qui ne voulaient pas aboyer sont ceux-là même qui subissent la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, jeunes filles et petits-enfants périssent tous ensemble. Les abominations au sujet desquelles les fidèles soupiraient et gémissaient étaient tout ce que des yeux finis pouvaient discerner. Mais de loin, les pires péchés, ceux qui provoquaient la jalousie du Dieu pur et saint, n'étaient pas révélés. Le grand scrutateur des cœurs connaît chaque péché commis en secret par les ouvriers d'iniquité. Ces personnes en viennent à se sentir en sécurité dans leur tromperie et, à cause de sa longanimité, disent que le Seigneur ne voit pas, puis agissent comme s'il avait abandonné la terre. mais il démasquera leur hypocrisie et exposera devant les autres ces péchés qu'elles prenaient tant de soin à cacher. Aucune supériorité de rang, de dignité ou de sagesse mondaine, aucune position dans une charge sacrée ne préservera les hommes du sacrifice des principes lorsqu'ils sont abandonnés à leur propre cœur trompeur. Ceux qui ont été regardés comme dignes et justes se révèlent être les meneurs de l'apostasie et des exemples d'indifférence et d'abus des miséricordes de Dieu. Leur conduite impie, il ne la tolérera pas plus longtemps, et dans sa colère, il les traite sans miséricorde. C'est à contre-cœur que le Seigneur retire sa présence à ceux qui ont été bénis d'une grande lumière et qui ont ressenti la puissance de la parole en exerçant un ministère envers les autres. Ils furent autrefois ses fidèles serviteurs, favorisés de sa présence et de sa direction, mais ils se sont éloignés de lui et ont entraîné d'autres dans l'erreur, et c'est pourquoi ils sont tombés sous le déplaisir divin. Testimonies, volume 5, 211-212.
Tout le livre d'Ézéchiel s'inscrit dans le contexte de la destruction de Jérusalem. Dans le témoignage d'Ézéchiel, le siège de Nebuchadnetsar, qui dura un an et demi, est expressément indiqué. Mais l'application plus directe de l'avertissement de Jésus en Matthieu 24 concerne les derniers jours. Dans Ézéchiel, cette ligne de vérité se trouve au chapitre 24.
15 janvier 588 avant Jésus-Christ.
De nouveau, la neuvième année, au dixième mois, le dixième jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, écris pour toi le nom de ce jour même. Le roi de Babylone s'est mis contre Jérusalem en ce jour même. Ézéchiel 24, 1, 2.
À cette date, qui est également établie par d'autres témoignages bibliques, commença un siège de 18 mois. La parole du Seigneur qui fut adressée à Ézéchiel en ce jour-là consistait en la parabole de la ville sanguinaire, illustrée par une marmite bouillante suivie d'un grand feu. La parabole représente clairement le jugement prononcé contre Jérusalem, et elle est suivie, dans le même chapitre, par la mise au tombeau de l'épouse d'Ézéchiel, frappée subitement, comme symbole que le siège qui devait finalement détruire le sanctuaire avait commencé.
La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. « Fils de l'homme, voici, je vais t'enlever d'un seul coup ce qui fait les délices de tes yeux, mais tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Gémis en silence, ne prends pas le deuil pour le mort. Attache ta tiare sur ta tête, mets tes souliers à tes pieds, ne te couvre pas les lèvres et ne mange pas le pain des hommes. Je parlai au peuple le matin, et le soir ma femme mourut, et le matin je fis comme il m'avait été ordonné. » Ézéchiel 24, 15, 18.
Alors les gens qui entouraient Ézéchiel lui demandèrent la signification de la parabole et de la mort de sa femme.
« Et le peuple me dit, ne nous diras-tu pas ce que signifient pour nous ces choses que tu fais ? Alors je leur répondis, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Parle à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je profanerai mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, le désir de vos yeux et l'objet de la compassion de votre âme, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Ézéchiel 24, 19-21.
L'épouse d'Ézéchiel et le sanctuaire sont tous deux désignés dans le passage comme la délice de tes yeux. Les historiens bibliques établissent que le siège dura 18 mois, tandis que les sièges de Cestius et de Titus durèrent 4 ans, de l'an 66 à l'an 70. Un décompte précis du temps allant du premier siège de Cestius jusqu'à la destruction donne 3 ans et demi, mais lorsqu'on applique le compute inclusif, qui est l'usage le plus fréquent dans la Bible, on obtient 4 ans. Le fait de savoir que les deux modes de calcul sont valides nous permet de voir à la fois 3 ans et demi, de Cestius à Titus, et aussi 4 ans.
Nous avons 2 témoins de la loi du dimanche dans les 2 destructions de Jérusalem, et les détails de ces 2 récits doivent être appliqués à la loi du dimanche bientôt à venir, où Laodicée est vomie de la bouche du Seigneur. Le commencement du siège de Nebuchadnetsar est marqué par la mort de la femme d'Ézéchiel. À sa mort, il fut ordonné à Ézéchiel de ne pas mener ouvertement le deuil, car il était le signe des Juifs emmenés en captivité.
Le commencement de la période de 4 ans allant de 66 à 70 est marqué par le signe de l'abomination de la désolation, qui était le signe donné aux chrétiens de Jérusalem pour prendre la fuite.
Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé Daniel le prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Matthieu 24, 15, 16.
2 sièges qui correspondent clairement l'un à l'autre, et les 2 sièges comportent un signe au commencement du siège. Lorsqu'Ézéchiel explique ce que signifiait la mort de sa femme et l'absence de deuil de sa part, il l'explique puis rapporte.
« Ainsi, Ézéchiel vous servira de signe. Vous ferez entièrement comme il a fait, et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. » Ézéchiel 24:24.
Le signe de la mort de l'épouse d'Ézéchiel constituait l'identification de la destruction imminente de Jérusalem et du Temple, ainsi que de la captivité qui suivit à Babylone. Le signe de l'abomination de la désolation, annoncé par Daniel, était un avertissement en vue d'échapper à la destruction, mais les deux sièges ont un signe au commencement.
Il y aura un siège prophétique avant la loi du dimanche qui doit bientôt venir, et la mort de la femme d'Ézéchiel est le symbole que l'église adventiste du septième jour laodicéenne a été entièrement délaissée, tandis qu'Ézéchiel est un symbole des 144 000 et le symbole de l'étendard qui est levé au commencement du siège. Ézéchiel est l'étendard des 144 000 au commencement du siège de Babylone et le signe de l'abomination de la désolation au commencement est le signe de Rome. Un signe renvoie à un avertissement interne et l'autre à un avertissement externe. Il y eut assurément un avertissement adressé aux chrétiens en l'an 66, mais le signe d'avertissement était Rome. Le signe dans la destruction de Babylone était la femme d'Ézéchiel. Rome est la catégorie de ceux qui reçoivent la marque de la bête et Ézéchiel le signe de ceux qui reçoivent le sceau de Dieu.
Deux périodes de clôture.
Le premier siège dura 18 mois et le second siège dura 4 ans. Ces deux sièges trouvent l'un et l'autre leur accomplissement plus direct dans les derniers jours et tous deux sont directement liés à la prophétie de 391 ans et 15 jours qui se trouve dans Apocalypse 9:15.
Le commencement des 5 mois d'Apocalypse 9, verset 10, comprenait une histoire qui marque une période de 38 ans, laquelle culmine dans un siège de 4 ans, associé au nombre 38 et identifié le surgissement de l'islam. Ce siège de 4 ans trouve son pendant dans l'histoire qui commença lorsque les 5 mois, 150 ans, s'achevèrent et que commencèrent les 391 ans et 15 jours. Elle débuta le 27 juillet 1449 et, 4 ans plus tard, l'islam porta contre Constantinople un siège de 55 jours qui s'acheva le 29 mai 1453.
Lorsque la prophétie de temps qui commença le 27 juillet 1449 parvint à son terme le 11 août 1844, les 4 années du mouvement du premier et du deuxième ange, de 1840 à 1844, s'alignèrent sur le siège de 4 ans allant de 1333 à 1337, ainsi que sur la période de 4 ans allant de 1449 à 1453. Ces trois témoins, qui font tous directement partie de la même ligne prophétique, représentent une période symbolique de 4 ans au cours de laquelle le mouvement du premier et du deuxième ange de 1840 à 1844 se répète dans l'histoire du mouvement du troisième ange. Ces trois témoins préfigurent un siège de 4 ans dans l'histoire des 144 000. Cette période de 4 ans est également illustrée par les sièges de Jérusalem en 66 et 70.
Le commencement du siège de 4 ans par Sestus en 66, puis son achèvement par Titus en 70, produisent un symbole alpha et un symbole oméga pour une période de 4 ans. Cette même période est également représentée comme 3 ans et demi, ce qui correspond à son tour aux 3 ans et demi prophétiques durant lesquels la Rome papale a foulé aux pieds le sanctuaire.
Mais le parvis qui est en dehors du temple, laisse-le de côté et ne le mesure point, car il a été donné aux gentils. Et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et je donnerai pouvoir à mes deux témoins et ils prophétiseront pendant 1260 jours vêtus de sacs. Apocalypse 11, 2, 3.
Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Luc 21, 24.
Il est essentiel de noter que j'emploie à la fois le compute inclusif et le compute exclusif pour la période représentée par le symbole alpha de Sestus jusqu'au symbole oméga de Titus. Cela indique que deux applications du temps sont représentées dans une même histoire. Nous avons déjà traité ce principe biblique lorsque nous avons examiné, il y a de nombreux articles, le temps écoulé entre la visite de Jésus à Césarée de Philippe, Panium, et son ascension sur la montagne de la Transfiguration. Deux auteurs bibliques mentionnent 6 jours et un autre en mentionne 8.
Et 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduit à l'écart sur une haute montagne. Matthieu 17, 1. Et 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. et il fut transfiguré devant eux. Marc 9:2. Or, environ 8 jours après ces paroles, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour prier. Luc 9:28.
La destruction de Jérusalem a une application plus directe au dernier jour, et cette destruction est attestée par 2 témoins représentés par Babylone et Rome. Les 2 témoins s'accordent l'un avec l'autre, mais fournissent des caractéristiques prophétiques différentes et essentielles afin d'amplifier la vérité. Le siège de Jérusalem par Rome, de 66 à 70, dura 4 années, lesquelles représentent aussi 3 ans et demi. Les 3 ans et demi se rattachent au foulage aux pieds du sanctuaire et de l'armée, accompli à la fois par le paganisme et par la papauté. Le foulage aux pieds par la papauté dura 3 ans et demi symboliques, comme l'annonçait en type une période littérale de 3 ans et demi dans le siège mené par Rome.
Ce siège de 4 ans se rattache également aux périodes de 4 ans associées à la ligne prophétique qui identifie l'élévation de l'islam, puis ensuite l'élévation du mouvement du premier, du deuxième, puis du troisième ange. De Cestius à Titus croise la roue de la Rome papale ainsi que la roue de l'islam. La roue de Rome et les 3 ans et demi de Cestius et du Titus croisent les 3 ans et demi symboliques de la Rome papale, identifiant ainsi les 2 entités que sont la Rome païenne et la Rome papale. La roue de l'islam est reliée par la même histoire, comprise comme une période de 4 ans, mais, de même qu'avec la roue de Rome dans cette histoire, l'islam est associé à une seconde puissance soumise à la roue de l'islam, à savoir l'adventisme. La période de 3 ans et demi représente Rome dans ses 2 phases, et la période de 4 ans représente l'islam et l'adventisme. La Rome païenne et la Rome papale ne peuvent être séparées prophétiquement, pas plus que l'islam et l'adventisme.
Cela exige, sur le plan prophétique, que lorsque nous considérons le siège de Babylone, 2 compréhensions du temps soient discernées dans l'illustration du siège de 18 mois. 2 représentations du temps dans le siège amené par Rome exigent, prophétiquement, 2 représentations du temps dans le siège amené par Nebuchadnezzar. Le siège de 18 mois de Nebuchadnezzar peut également être compris comme un symbole d'un an et demi. 18 mois correspondent à 1 an et demi, et 1 an et demi peut s'exprimer comme 1,5 années. Le siège de Nebuchadnezzar était à la fois de 18 mois et d'un point 5, 1,5 années.
Les 18 mois désignent la puissance qui devait fouler aux pieds Jérusalem, et les 1,5 années désignent l'islam. La roue prophétique de calcul qui identifie 18 mois identifie Babylone, et l'autre roue prophétique de calcul identifie l'islam. Nous n'avons pas encore exposé l'explication de la manière dont nous parvenons à l'application des 1,5 années en rapport avec l'islam. Mais il convient de noter que les 2 modes de calcul du temps dans la destruction opérée par Rome sont liés à la roue prophétique de Rome, tant païenne que papale, et que l'autre mode de calcul est lié à la roue prophétique de l'islam. Ces caractéristiques se retrouvent dans les destructions alpha et oméga de Jérusalem.
Le siège de Jérusalem de 4 ans, avec Cestius et Titus, représente la fin d'une ligne prophétique qui a commencé par une période de 38 ans et qui s'est achevée par un siège de 4 ans, symbolisant l'élévation de l'islam. Et la période finale de 4 ans, dans cette même ligne, représente l'élévation de l'étendard des 144 000.
Nous poursuivrons ces choses dans l'article suivant.